Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les sciences sociales s'intéressent de plus en plus aux ravages psychologiques et sociaux causés par l'idéologie de l'amour romantique dans nos sociétés. Eva Illouz, qui est grande spécialiste du sentiment amoureux, publie tout juste en français un essai intitulé « La fin de l'amour » où elle explore toutes les façons dont l'amour se termine, disparaît, finit. Car il semblerait, d'après certains sociologues, que les conditions de réalisation de cet idéal romantique, qui inclut exclusivité, fidélité, éternité, n'existent plus dans un monde où le marché sexuel est relativement libre, où il n'y a plus de contraintes familiales ou sociales dans le choix du partenaire et où on peut divorcer ou se séparer sans être frappé d'infamie. Ces nouvelles normes amoureuses qui incitent en même temps à être performant, à se donner le plus de choix possible, entrent ainsi en conflit avec cette idée romantique qui persiste dans un grand nombre de représentations. C'est ce que résume Ruven Augien dans son livre « Philosopher ou faire l'amour » qu'il place sous le signe d'une chanson de Brigitte Fontaine qui dit « L'amour, 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 toujours le vieux discours, l'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos ». Dans la clinique de l'amour, dont voici le deuxième épisode, des couples, des familles luttent justement pour résoudre ce conflit de normes, pour joindre ces deux bouts, pour garder quelque chose de cet idéal intact et le faire entrer dans la vie quotidienne, moderne, compétitive, sur le marché de la famille idéale et de l'amour. L'ardoise pivotante, c'est le titre de cet épisode, d'une série donc dans l'intimité d'une thérapie de couple. On aborde aujourd'hui les vrais sujets, le sexe et l'argent, et le travail commence vraiment. Nous sommes avec le couple Martin et leur câlin et la famille Dazik, et c'est une série de Delphine Saltel entièrement disponible dès à présent sur franceculture.fr et sur toutes les applis de podcast.
Le jour de ma deuxième visite, on est début juillet, il fait 40 degrés. Les cigales de Provence sont déchaînées. À l'entrée de l'hôpital psychiatrique où se trouve le service de thérapie de couple, je tombe sur un patient emmitouflé dans une énorme doudoune. Il est très agité et il hurle sur tout le monde. Pour les couples qui arrivent à leur rendez-vous, ça doit pas être le comité d'accueil idéal. Mais peut-être que de se retrouver comme ça tout à coup au milieu des malades, des blouses blanches, des ambulances, ça leur donne l'impression qu'ici, on va prendre leur souffrance au sérieux, qu'ils vont pouvoir s'en remettre à des médecins, qu'on va soigner leur couple comme un vrai patient. D'ailleurs, les séances sont remboursées par la Sécurité sociale. C'est la deuxième séance des Martins.
Est-ce que vous pouvez nous redire sur vos attentes en venant ici ?
Mes attentes sont toujours les mêmes, c'est de sauver mon couple et ma famille.
Je remarque tout de suite le sourire du mari et la voix calme de sa femme.
De retrouver une sérénité et surtout qu'il retrouve une paix dans sa tête. J'ai réfléchi à ça parce qu'en fait, le moindre petit truc peut le faire, comme je dis, partir en live. Il se pose trop de questions pour moi. Donc j'aimerais qu'il trouve une sérénité là-dessus.
Ils ont l'air nettement moins à couteau tiré que la dernière fois. À un moment, il lui pose même la main sur le bras, affectueusement. Qu'est-ce qui a pu se passer depuis le premier rendez-vous ? Est-ce que la thérapie a déjà commencé à faire effet ?
Je suis en train de prendre une autre option. J'essaye d'être beaucoup plus relatif dans les choses. C'est-à-dire que d'arriver à un moment donné, à m'exprimer sans heurter, mais en disant les choses clairement. J'essaye. Voilà, j'essaye.
Alors, je demandais à votre épouse, elle a remarqué ça, que vous avez... les choses de manière plus claire et moins heurtante. Non ? Ah bon ?
Moi, j'ai pas remarqué. Mais moi, il m'a toujours dit ce qu'il lui pensait. Il a toujours gueulé.
Ah, mais là, il a dit autre chose. J'ai entendu qu'il disait non, j'apprends à dire les choses plus clairement et de manière moins heurtante, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et ça, vous a marqué que c'est moins
heurtant ? Oui, ces temps-ci, oui. Mais parce qu'il a rien à me dire. Je pense que tout, quand il vient, tout va bien, donc il a plus rien à me dire.
fait, ce qui fait que ça va mieux, c'est que le mari a quitté la maison. Mais plusieurs fois par semaine, il passe voir sa femme et leurs deux adolescents. Elle continue à tout gérer à la maison, mais lui doit sans doute se sentir libéré d'un quotidien qui lui pesait.
Donc c'est vrai que quand on parle, il est gentil, il fait des compliments. Alors qu'avant, il m'aurait peut-être dit des choses pas très gentilles. Là, c'est vrai.
D'accord, donc vous dites là, actuellement, c'est une situation un peu artificielle. Donc effectivement, il est moins heurtant, mais c'est lié au contexte. Donc,
je pense. Moi, je rebondis un peu parce que ce qu'il vient de dire... J'aurais peut-être raconté notre début d'histoire. En fait, on s'est rencontrés, ça a été un peu un coup de foudre tous les deux. Bon, il avait deux enfants dont il avait la charge, et moi, je n'en avais pas, donc j'étais célibataire. Moi, j'étais un peu Fleur Bleu, hein, maison de la prairie, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je me suis vue accueillir tout le monde, c'était mes enfants, enfin, ce n'était pas les miens, mais je les accueillais comme si c'était les miens. Et donc, on s'est mis en couple assez vite. D'un an, à peu près, on a habité ensemble, on a loué une maison ensemble. Après, bon, moi, j'avais une maison que j'avais achetée quand j'étais célibataire. Et donc, il y avait des locataires, on a donné congé aux locataires, on est allé habiter donc, dans ma maison, mais qui, pour moi, était la sienne aussi. Et ça fait donc 15 ans qu'on est dans cette maison, et il ne se sent pas chez lui. Les petits ne se sont jamais sentis chez eux non plus. Lui, il ne se sent pas chez lui. L'autre jour encore, il m'a dit « Ouais, j'aimerais bien qu'on change tout. » Alors, j'ai une famille qui m'aide beaucoup. Enfin, qui nous aide beaucoup.
Donc, il t'aide à toi.
C'est... Non, il nous aide.
C'est ta famille, c'est pas la mienne. Donc, c'est-à-dire, la différence, c'est que ta famille, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Donc, qui t'aide à toi, oui. À travers de moi, c'est ce que tu n'as pas jamais compris. C'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une histoire. D'avoir une histoire dans cette maison, ouais. C'est-à-dire d'avoir acheté en commun un ensemble mobilier qui soit nous soit propre. J'aurais aimé qu'on fasse un foyer avec des repères à nous. Voilà, des repères à nous en nous disant bon ben, je suis peut-être vieux jeu, mais pas se faire prêter de l'argent. Et c'est le départ, c'est les bases en fait qui m'ont en fait un peu gêné, voilà. C'est les bases qui m'ont tué et qui m'ont fait dire qu'au départ, je n'étais pas chez moi.
Comment en arrive-t-on un jour à déclarer qu'on ne s'est jamais senti chez soi après 18 ans de vie commune ? Moi, au moment de m'installer avec mon conjoint, je n'ai pas parlé tout de suite de la répartition des tâches ménagères. Je trouvais le débat pas très sexy, voire d'arrière-garde. J'étais persuadée qu'on appartenait à une génération où la question ne se posait plus. 10 ans plus tard, après des centaines d'engueulades à base de « qui est censé nettoyer le frigo au vinaigre blanc » ou « frotter le filtre du lave-vaisselle à la brosse à dents », je comprends très bien ce monsieur. C'est difficile au début, quand on veut tellement plaire à l'autre et que l'amour nous aveugle, d'avoir le courage de dire ce que l'on a à dire, sans attendre.
Mais là, je lui ai dit maintenant,
effectivement, j'aurais dû y en parler beaucoup plus tôt, lui dire « voilà ». La proximité de ta famille, maman, tout, la maison familiale, j'aimerais qu'on s'éloigne un peu, qu'on se retrouve ailleurs qu'à côté. Et je lui ai dit clairement, j'ai dit, on déménage, on va vivre ailleurs, peut-être ça sera bénéfique. Je lui en ai fait part. Elle m'a dit, c'est un ultimatum que tu me donnes. Voilà.
Vous pensez comme ça ?
Je crois pas.
Mmh. Ouais, c'est-à-dire ?
Ben, parce que de toute façon, même si on vend... L'argent est à moi, parce que la maison est à moi. Donc, acheter, on va acheter avec quoi ? On va faire un crédit à 60 ans ? Je ne pense pas qu'on en fasse un. Donc, je ne pense pas que ça change le problème, on va dépasser le problème. En plus, bon, il me fait. Ma famille n'a jamais été très récente, on n'a jamais passé tous les dimanches avec ma mère, on n'a jamais passé. C'est vrai qu'elle habite pas loin.
Ma mère,
elle n'aime pas
venir. Ta famille était très présente.
Je suis très famille, c'est autre
voilà.
chose.
Oui, mais tous les week-ends, pratiquement,
on
tu y allais.
C'est pas vrai.
Toi, tu y allais. Ou alors, on était invités pour droite à gauche. Il y avait quand même une présence familiale importante. Voilà. C'était toi. Tu m'as toujours dit, ma famille compte énormément.
On passe Noël, Pâques, les anniversaires de chacun. Et c'est tout ce qu'on a fait. On n'a rien fait de plus. Donc, je ne sais pas où tient ma famille. Par contre, c'est vrai que même...
Vous comprenez qu'il y a...
Là, il y a des perceptions différentes. Complètement différentes.
C'était pas pour moi un plaisir d'aller chez ma belle-mère. Pas un plaisir du tout. Vous allez dans une grande maison qui apparaît comme un sanctuaire. Et puis moi, j'étais au milieu, comme un étranger, au milieu. Voilà, je me sentais un peu voilà, un peu rejeté. Voilà. D'où c'est, cette, voilà, ce rejet.
J'apprends des choses.
Voilà.
Et ça, vous l'apprenez ?
Ah oui. Ah oui. Oui, parce que il a été accepté dans la famille. Donc, je pense qu'il s'est fait encore des films. Mais pourquoi tu n'en parles pas avant ?
Parce que j'avais peur. Peur que ça
nuise sur notre couple.
Parce que j'avais peur que ça nuise sur notre couple et tu l'as jamais compris.
J'ai compris, mais ça fait 18 ans que tu es complètement ailleurs.
J'aurais dû, dès le départ, dire les choses clairement. Ah, et dire les choses clairement, je ne les ai pas dit clairement. Ouais. Et ça m'a pesé.
D'accord.
C'est tout. Okay. C'est bon. Ça ne me faisait pas plaisir de partir en vacances avec ton frère. Je croyais te l'avoir fait comprendre. Je suis parti à la neige parce que
je voulais pas. Ce que tu oublies un petit peu, c'est qu'on n'a aucun moyen tout seul. Tu oublies qu'on a quand même deux petits salaires et qu'on.
Eh bien, on fait avec nos moyens. Voilà.
Mais moi, je ne suis pas très dire. Parce que tu veux faire des sorties.
On part quand on peut.
Et pour faire des sorties, il faut avoir des sous. Hein.
Eh bien, on part quand on peut.
D'accord. Bon, enfin bref, c'était important d'en parler de toute façon. Tu vois, tu aurais dû en parler avant quand même.
J'apprends à parler.
Ah, mais tu vas.
Sans heurter.
Sans heurter, ben là tu m'as heurté, hein, je te vois.
Ah, parce que c'est. Est-ce que dire la vérité, c'est heurter les gens ?
Ah, ben oui.
Bien. Pardon de vous couper, éventuellement vous
voilà. Cette non, 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 non.
J'ai l'impression que c'est une discussion importante.
Ben oui, c'est important, je
pense. Vous n'avez jamais eu. Donc, vous pouvez tout à fait continuer cette discussion sans nous. On va, pendant ce temps, faire notre interruption de séance.
L'interruption de séance est le moment, au bout de 45 minutes en général, où les thérapeutes passent dans une autre pièce attenante pour rejoindre les étudiants stagiaires qui ont assisté à toute la consultation, mais à travers une vitre sans teint et des haut-parleurs. C'est là que je suis installée moi aussi. Pendant que j'écoute les médecins et les psychologues réfléchir à la situation, aux hypothèses qu'ils vont proposer aux patients tout à l'heure à la fin de la séance, j'observe le couple derrière la vitre. Ils ont l'air d'être partis dans leur grande explication. Rien que de penser au nombre d'heures qu'ils vont passer à essayer de se comprendre, je suis déjà fatiguée pour eux. Mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se parler. Sinon, la pelote des malentendus grossit de plus en plus. La belle-mère, les virements sur le compte commun, les vacances au ski, tout s'en mêle. Et à la fin, on ne sait plus sur quel fil tirer pour défaire les nœuds. Ça semble évident, mais ils avaient peut-être besoin de venir jusqu'ici, à l'hôpital, rencontrer deux thérapeutes qui ont fait 15 ans d'études chacun, pour entendre cette phrase toute simple, parlez-vous, écoutez-vous, et pour enfin se décider à le faire bel et bien.
Alors, justement dans l'échange que nous avons eu avec nos collègues derrière le miroir, il y avait différents vécus. Il y avait certains qui se disaient, waouh, qu'est-ce qu'elle en prend madame là aujourd'hui, quand même, c'est dur. D'autres se sont dit, elle classe, elle prend, elle reçoit de manière très bienveillante. Parce qu'effectivement, par rapport à ce que vous dites, on pourrait dire, bah, vous, je trouve que c'est courageux de le dire. Et pareil, on pourrait se dire, bah, pourquoi il a attendu 15 ans avant de dire des trucs comme ça ? Enfin, et donc, madame pourrait avoir différentes réactions, dire, les bras m'en tombent. Qu'est-ce que tu m'as caché pendant 15 ans, tout ton ressenti ? Enfin, un couple, c'est fait pour partager des choses, des ressentis. Qu'est-ce que tu m'as caché ça, en soi-disant, en protégeant notre couple ? Enfin, voilà, vous pourriez réagir avec colère. Alors, ce à quoi on se propose de réfléchir, peut-être pour la suite, c'est qu'il y a une petite voix qui nous dit que peut-être ce que vous vous reprochez mutuellement, nous faisons l'hypothèse que ce que vous reprochez à madame, c'est quelque chose qui vous appartient aussi à vous en propre. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute uniquement de madame, de sa famille. C'est peut-être, on vous invite à réfléchir à cela, mais... C'est se dire qu'il y a quelque chose qui était déjà là en vous, avant même que vous rencontriez madame, du côté de « je dois prendre sur moi, je ne suis pas écouté, je ne suis pas reconnu, je ne suis pas chez moi ». Toutes ces phrases, on les a entendues, nous avons été sensibles à ces phrases-là.
Je ne trouve pas de place.
Et voilà, qui peut-être, c'est des choses qui peut-être qui appartiennent
tout à, fait d'accord.
À votre histoire. Non, et vous, là, pour le moment, c'est un peu focalisé sur madame, mais c'est peut-être des choses qui sont beaucoup plus larges. C'est parfois dans notre jargon ce que nous appelons l'ardoise pivotante, c'est-à-dire qu'on présente la note à quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la colère parfois contre ses parents, contre des proches. Mmh. Et puis on rencontre quelqu'un, une épouse, un compagnon, un mari, et puis on présente la note à cette personne. Tu me dois la reconnaissance, tu me dois le respect. Alors que la note, en fait, on aurait voulu la présenter à nos parents qui ne sont plus là.
Pas comme ça, c'est ce que j'ai dit. C'est
on réfléchira.
Le passé qui ressort, j'en suis conscient.
Et parfois, quand le passé sort, il est un peu violent et du coup, c'est la personne la plus proche de nous qui prend. Mmh. Et qui peut se dire, ça prend le café, c'est injuste, moi je ne mérite pas tout ça.
C'est vrai, ce qu'on dit, c'est vrai.
Cette image de l'ardoise pivotante, j'ai l'impression qu'elle a tout de suite fait tilt dans la tête du patient.
Oui,
comme si d'un coup, il avait visualisé de vieilles additions écrites à la craie et peut-être eu envie de refaire ses comptes, de passer l'éponge.
Ça peut être le 21 à la même heure, 11h, ou le 28 août.
Le 21, c'est pareil. Le
21 ?
Oui, c'est pareil, docteur.
Oui.
Pour nous, c'est pareil, on s'arrangera.
J'aurais tendance à dire le 28, que si on veut partir un peu, là, j'ai déjà pas le
rendez-vous.
Tu veux
partir où
J'en sais rien. Je peux partir sans toi. Hein.
Ah oui, tu peux partir sans moi, si tu le décides.
On va dire 28.
Je le regarde prendre congé derrière la vitre, avec sa petite sacoche en bandoulière, sa chaîne en or, habillée tout en noir, genre séducteur.
À la prochaine.
Sa femme serre chaleureusement la main des docteurs. Même s'il leur reste encore sans doute beaucoup de travail, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ils ont enclenché un processus, que les choses vont commencer à bouger. Le rendez-vous d'après, ce sont les DASIC. Une consultation de couple un peu particulière puisqu'ils sont divorcés depuis 12 ans. Ils se partagent la garde de leurs deux filles et viennent consulter ensemble pour la cadette qui s'appelle Amy et qui leur donne du fil à retordre. Il y a un mois, l'adolescente de 13 ans a fugué pendant 24 heures et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de commencer la thérapie. Ils en sont à leur troisième séance. Amy est en classe de 4e, ce jour-là elle porte un t-shirt coupé au-dessus du nombril et elle a dû passer pas mal de temps à lisser ses beaux cheveux bruns au babyliss. Assise juste à côté d'elle, il y a sa grande sœur de 16 ans, Lise, blonde, bouclée, avec des lunettes à verre épais et un style beaucoup moins fashion victime. Elle a un handicap mental depuis sa naissance qui fait qu'elle est scolarisée dans un institut spécialisé. Elle parle très peu, mais elle assiste à toutes les séances.
Et dans une de nos séances, elle m'exprimait aussi son inquiétude concernant sa sœur, qui vit en institution, et tu disais que tu avais peur qu'on l'embête. Et finalement, on a, derrière la jeune fille rebelle, on a vu la jeune fille qui se préoccupe de sa sœur, qui veut la protéger, qui veut l'aider. C'est un peu ça. On en est de nos échanges.
C'est ça, simplement depuis cet été, le papa a remarqué quand même qu'avec lui aussi, elle lui mentait, elle lui parlait mal aussi. Ça s'est affirmé avec le papa aussi depuis cet été.
C'est exactement ça, on est arrivé à un point d'acmé très très haut, avec il y a un mois à peu près la fugue d'Ami. Avec tout ce que ça a généré, on a appelé la police, il y a eu beaucoup de... Et on va dire que pour l'instant, et j'espère que ça ne s'arrêtera là, c'était le point d'acmé. Depuis, ça ne fait que redescendre. Je la sens bien dans sa peau, je sens bien tout le monde en fait. C'est calme. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, c'est quelque chose de...
On en a même à se demander pourquoi, c'est quand même incroyable.
Non, en tout cas, tu le sais. Donc depuis le week-end qu'elles ont passé chez leur père il y a 10 jours, Amy est un ange. Même avec moi à la maison. Au collège, je n'ai pas de retour, donc tout va bien. Elle a des notes excellentes. Elle se met au devoir très facilement.
Et comment vous comprenez ça?
Je sais. Alors, dis-moi ce que tu m'as dit ce matin. Pourquoi tu te comportes bien? Dis-nous.
Pour récupérer mon téléphone.
Alors effectivement, elle veut récupérer son portable.
Je pense que le téléphone, bien sûr, tu as envie d'avoir le téléphone, ça je comprends. Mais je pense... J'espère que c'est pas que ça.
Oui.
Et ton téléphone, tu penses que tu vas pouvoir le récupérer dans combien de temps si tu continues à être tranquille? Combien?
Alors, nous, ce qu'on s'était dit, c'est toute l'année de quatrième que tu n'auras pas le portable.
Mais non, ça m'arrange pas trop.
Non, mais je sais que ça t'arrange pas trop, mais tu es allé trop loin.
J'ai pas entendu le. Le portable est privé toute l'année?
Ouais.
Ah.
Comme la sixième.
Oui, ben, comme tu t'en es pas plus mal porté.
Et donc, il n'y a pas de condition de, qui permettrait de récupérer son portable plus tôt?
Ben, sinon, on a eu, je les ai respectés, ils m'ont quand même enlevé. Alors, il y avait trois règles. Je ne dors pas avec mon téléphone, je ne parle pas avec les réseaux, avec des gens que je ne connais pas.
Donc ça déjà, c'était pas...
Alors,
c'était...
avec quelle personne j'ai pas parlé? J'ai parlé?
Tous les garçons, là. Les soi-disant copains du copain du copain.
Et c'était des voisins de Marie.
Non, mais...
Alors, bref. Et la troisième règle, c'était quoi? C'était, je ne me coupe pas de la vie réelle. Je me suis pas coupée de la vie réelle.
Ouais, c'est ça. Quand on te demande...
Pendant que les parents, visiblement à cran, déroulent cette histoire de téléphone portable, Ami n'arrête pas de lever ostensiblement les yeux au ciel. Et ça fait beaucoup rire sa sœur qui s'agite sur le siège d'à côté. En fait, ça ne s'entend pas, mais depuis le début, Ami, l'ado rebelle, se tient tout près de sa sœur, qui du fait de son handicap mental a du mal à suivre la consultation. Elle lui adresse en permanence des clins d'œil complices, des grimaces, plein de petits gestes furtifs, un peu comme si elle lui traduisait l'entretien en simultané dans une espèce de langage des signes qu'elle semble avoir inventé ensemble. C'est très drôle à regarder. Et émouvant, ce dialogue qu'elles maintiennent toutes les deux en parallèle de la conversation des adultes.
De façon plus générale, et c'est pas le téléphone, c'est les réseaux sociaux. C'est tellement enivrant, c'est comme une drogue, une vraie drogue, qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça prend une proportion telle qu'elle fabrique des plans à partir des réseaux sociaux, elle parle avec sa copine Marie, avec qui elle prépare des plans, des coups, des machins. Pour moi, c'est une drogue, elle est dure.
D'accord.
Et à partir de laquelle, ça part en vrille complet.
La première fois, en mars dernier, à la première punition de portable, elle a réagi en suffoquant. Elle a suffoqué.
Non, comme vous m'avez dit que j'avais que 45 minutes de téléphone.
Ah oui, 45 minutes de téléphone.
Ah ouais, alors en plus, c'était même pas la punition totale. Mais tu t'en rappelles comme tu suffoquais? C'était physique.
Bah oui, mais 45 minutes, j'ai le temps d'envoyer un message.
Moi, justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'à l'adolescence, parce qu'avec le tir, hein, elle est réglée depuis le mois de mars dernier. Et c'est depuis mars dernier, non mais c'est important, où on a des accès de colère, des changements d'humeur très subis. Bon, est-ce que c'est lié juste à cette puberté ou est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir autre chose derrière? C'est-à-dire, vous voyez, en deux heures, elle peut être très agressive et violente. C'est ce qui s'est passé mercredi avant. Et deux heures après, il me l'a ramenée, elle était là à m'embrasser, alors qu'elle m'avait pourri avant, tu te souviens? Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des disjonctions, ou une maladie mentale, ou un truc comme ça, non?
Ah, vous pensez...
Je sais pas, le truc, c'est qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de ça. Mm. Alors, autour de moi, il y a des documentaires à la télé qui montrent ça, ben encore dimanche. C'est vrai qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est juste lié à la puberté, ou est-ce qu'il peut y avoir autre chose derrière?
C'est sûr qu'à l'adolescence, on peut avoir des grandes, grandes variations d'humeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vôtre. C'est souvent un moment...
Je ne me rappelle pas trop. Ce que je me rappelle, ouais, je pouvais m'engueuler avec ma mère, mais je ne la traitais pas de connasse. Et je ne partais pas fuguer. Et voilà.
En tant que mère, je ne sais pas trop comment je réagirais à sa place, mais j'avoue que quand mes enfants font une crise, au supermarché ou à table chez des amis, c'est très rare que je trouve la bonne attitude, la répartie bien sentie qui désamorcerait intelligemment les choses. En général, je monte en pression, je finis par dire des choses débiles, voire violentes, et ça se termine qu'à la fin, c'est moi qui ai l'air d'une enfant, ou en tout cas d'une mère complètement à côté de la plaque. D'ailleurs, après cette consultation, le psychiatre m'a expliqué que dans les phases de crise, les enfants sont souvent plus adultes que leurs parents. Mais comme le médecin n'est pas censé se positionner, il essaie juste de relancer la balle sans trop se mouiller.
Mais toi, mais qu'est-ce que t'en penses quand t'as grandi? Je me demande si on ne pourrait pas avoir un problème.
Je
ne
suis pas énervée, je veux mon téléphone.
Tu n'es pas énervée, pardon?
Et je veux mon téléphone.
Oui.
Mais pour moi, ce téléphone, il est très loin, tu vois, il est dans l'espace.
Dans un mois.
Non, pas dans un mois. Jamais, à aucun moment, t'as dit que ce serait dans un mois. Non, toi, c'est pas toi qui décide. Que ce soit prêt, sujet à la discussion. Voilà. Par exemple, moi, j'aimerais récupérer mon portable. dans telle et telle et telle condition. On peut en discuter.
Je respecte les règles, vous me l'enlevez. Pourquoi ? Parce que j'étais chez ma collègue et qu'elle a invité ses voisins. C'est pour
fois,
ça que tu me l'enlèves.
À chaque fois,
il y a toujours une embrouille.
Une embrouille de quoi ?
Tu peux pas faire simplement. Oh là là.
D'accord.
Bon, pas facile. Hein. Quand on a deux parents qui sont d'accord pour une privée de portable pendant plusieurs mois, je comprends que ce soit dur. Hein. Mais je veux dire, vous avez de la chance d'avoir des parents qui peuvent mettre leur désaccord dans leur poche ou se mettre d'accord en tant que parents. Ça, c'est une chance. Et j'avais envie de dire, même si votre fille est sage pour récupérer le portable, et bien, j'ai envie de dire, c'est une raison comme une autre. Voilà.
Moi, je prends.
Parce qu'après tout, on pourrait presque se dire, des fois, les enfants, ils sont sages pour faire plaisir aux parents. Ils travaillent bien à l'école pour faire plaisir aux profs. Eh bien, si elle travaille bien pour récupérer son portable,
ben, oui.
C'est une raison.
Oui.
Voilà. Même si c'est avec une stratégie, alors... Les adultes, on a tous des stratégies aussi. Donc si toi, tu en as aussi, tu es bien préparé pour devenir adulte.
Enfin bon.
Allez, Lise est là pour détendre l'atmosphère.
Oui, c'est vrai. Toujours.
Bah. On fait ça maintenant, hein.
À ce moment-là, Lise, la sœur restée en retrait depuis le début, choisit de se manifester à sa manière. Un peu comme si elle voulait rappeler à tout le monde qu'elle aussi a un rôle à jouer dans la thérapie. Je me demande ce qu'elle veut exprimer, si les autres vont réussir à l'intégrer dans la discussion, et ce qui se passe réellement entre ces deux sœurs.
C'est dommage, il faudrait que tu parles. C'est pour nous aider tous, là. Hein. Il n'y a pas que Ali qui est concernée. Mm-hmm. Lise, tout cela, ça nous aide, on dit de ce dont on
la perfection totale.
Comment toi, tu vois, nous on parle beaucoup d'Ali, on ne parle pas beaucoup de toi. Tu es d'accord avec ça?
Oui.
Là, en ce moment, hein. Et qu'est-ce que toi, on ne t'entend pas beaucoup parler de ce que tu penses de cette situation avec Ali?
Non, je ne sais rien.
Non, c'est pas que tu n'en sais rien. C'est que tu as un avis. Qu'est-ce que tu ressens?
Qu'est-ce qu'elle dit?
Mais elle ne sait pas faire des phrases. Tu ne sais pas parler. Non, ça va. Donc elle peut parler. Si elle sait parler, elle a dit qu'elle a envie. Elle n'a pas aucune idée.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gonna learn sometime.
La clinique de l'amour, c'était l'épisode 2 intitulé L'ardoise pivotante, une série de Delphine Saltel réalisée par Cécile Lafont. Merci à Jean-François Ampelas, à Ludmila Shostakov et aux patients dont les noms, je le précise, ont été modifiés. C'est Aurélie Marcel, attachée de production des Pieds sur Terre, et Sarah Djeroui, notre stagiaire.